J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujima au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Radio Kapi, la fréquence de la paix qui vous livre ce nouveau numéro de parole aux auditeurs. Gestion de catastrophes humanitaires en RDC, le gouvernement décide de la création d'une agence pouvant répondre aux urgences humanitaires imprévisibles. Qu'en pensez-vous? Appelez-nous au 081-890-4969 et 09-97-06-4969. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Gilles Lungembo est à la coordination de ce magazine mis en onde par Mimi Kindou. Pierrot et Lamegi, j'ai le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Martin Sebujang, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Radio Capi donne la parole aux enfants sans exclure les adultes. Tous les vendredis à partir de 14h15, rediffusion tous les dimanches à 12h10. Et mardi à 15h30. Les enfants et les adultes débattent sur les sujets qui les concernent sur votre radio.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Rappelons que le gouvernement congolais avait adopté le lundi 16 avril 2018 la création de l'agence de gestion des fonds humanitaires en République démocratique du Congo. L'agence qui a pour mission de prendre soin des victimes des catastrophes naturelles et autres situations d'urgence se produisant sur le territoire de la RDC. Il devra aussi assurer la réinsertion sociale de tous les Congolais qui ont connu la rupture de la structure normale de la vie, dont les personnes frappées par des catastrophes naturelles, les déplacés internes, les refoulés, les retournés et les anciens militaires mobilisés. Outre ces missions, la structure devrait également aussi assurer la canalisation de tous les flux financiers qui touchent les secteurs humanitaires en République démocratique du Congo. Rappelons que les besoins de l'humanitaire pour la RDC vont jusqu'à 13 millions de Congolais qui dépendent aujourd'hui de l'aide humanitaire pour survivre, soit 150% de plus qu'en 2017. Et ça, ça a été relevé par les conseils de sécurité des Nations Unies en début d'année quand il fallait lever les fonds pour la question de l'humanitaire. Outre ceux qui connaissent des cas comme des déplacés internes pour des guerres, mais il y en a aussi qui tombent dans des situations comme le refoulé, le retourné de l'Angola, les victimes des catastrophes naturelles comme l'incendie à Bukavu, l'incendie, la collision de deux camions, par exemple dans les Bas-Congo. Alors comment arriver à faire face à ces genres de situations? Est-ce que cette agence gouvernementale va-t-elle arriver à répondre aux besoins, avoir des fonds nécessaires? La question et les débats sont ouverts sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, mais en FM avec vous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes nombreux à vouloir commenter ces sujets. Sylvain, merci d'être avec nous et bonjour.
Bonjour. Je voudrais vous souhaiter très bonne prestation.
Merci.
Au cours de cette émission. Et surtout que le sujet que nous évoquons aujourd'hui, c'est un sujet de la survie d'une nation. Puisque lorsqu'on parle de, que ce soit les agences, que ce soit des fonds spécifiques qui doivent intervenir dans un secteur ou un autre, dans une nation, en réalité, il y a une idée pour cela. Nous sommes en économie, et spécialement dans la gestion des finances publiques de l'État. Alors, je l'ai dit, c'est que ce qui étonne aujourd'hui, lorsque vous voyez comment l'économie congolaise fonctionne, et je dirais aussi les finances, il me semble que l'orthodoxie financière ou de gouvernance financière économique est loin d'être notre appât. Et c'est ce qui pose un grand problème. Pour que nous soyons saisis correctement par les auditeurs, et peut-être par vous-même aussi, il faut que les gens puissent identifier déjà la multitude des formes de ces agences en République démocratique du Congo. Je vais vous prendre le cas, par exemple, du fonds forestier, ça veut dire le FFN, le fonds forestier national, qui est là dans les secteurs de la gouvernance forestière, mais aussi je vous prends le cas du fonds NER, ça veut dire le Fonds national d'entretien routier. Donc, ce sont des cas qui sont des cas palpables. Et lorsque vous, aujourd'hui nous parlons de l'agence de gouvernance des catastrophes humanitaires, il faut ici ne pas oublier que toute nation responsable fonctionne sur un élément essentiel qu'on appelle budget de l'État. Et comme je l'ai dit, que nous soyons keynésiens ou classiques, c'est que le budget est la sève de l'État. Ça veut dire que c'est l'élément essentiel qui porte l'existence de l'État. Et pour ceux qui, avec nous, on va faire ce débat ensemble aujourd'hui, même pour ceux qui assoignent le cours des finances publiques comme moi dans les universités, nous disons aux gens, c'est que le caractère anticipatif d'un budget de l'État prévoit aussi des activités gouvernementales imprévisibles. Et donc, en principe, puisque nous parlons de catastrophes humanitaires ou de catastrophes naturelles ou de dégâts naturels qui doivent surgir en République démocratique du Congo et même peut-être en dehors de la République démocratique du Congo, il faut que nous disions que déjà dans la conception et la rédaction du billet, il y a des éléments imprévus qui doivent intervenir. Maintenant, ceci dépend de la façon dont un État ou une nation est accoutumé à sa pratique budgétaire. Et ici, j'insiste pour tous ceux qui nous attendent, c'est que nous soyons dans la conception traditionnelle des finances publiques de l'État ou dans la conception moderne des finances publiques de l'État, tout concourt au bien de la gouvernance de l'État. Et dans la gouvernance de l'État, il y a des faits imprévisibles tels que les catastrophes naturelles, et on ne peut pas penser qu'un budget ne peut pas les prévoir. Donc, du moment où, puisque c'est là où réside mon inquiétude, du moment où dans la gestion ou dans la pratique budgétaire en RDC, il y a un souci permanent tel que vous le savez, on parle de la gabegie financière, de la mauvaise gestion des finances publiques de l'État, et aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi que le Parlement qui devait contrôler l'exécution de nos budgets depuis 2006 jusqu'à ce jour, ne l'a jamais fait d'une manière responsable, et c'est pour cela que dans la plupart des cas de nos vies nationales, ça veut dire dans tous les secteurs de la vie nationale du pays, nous sommes en essai inférieur à 10 de réalisation. Et donc, je me pose une question, en tout cas avec une sincérité patriotique, est-ce que la RDC avait manqué les moyens pour chaque fois répondre au cas de catastrophes naturelles? Je dis non. Pourquoi? Je vais vous donner le cas récent, monsieur Pierrot. Je donne le cas de Ndjougou, de Tara. Quand il y a eu éboulement à Tara, je vais même prendre le cas d'autres coins de la République, peut-être je ne saurais pas les citer vite, mais à ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons un ministère habilité, le ministère de l'Affaires sociales. Donc, on peut aujourd'hui nous dire que ce ministère n'avait pas de budget alloué dans le budget national. Pour moi, je trouve ça comme une entorse de réflexion. Et c'est là où je ne trouve pas le bien fondé de cette agence. Deuxième chose, comme aux États-Unis, il y a l'USAID, en tant que fonds des Américains, qui doit aider les États-Unis et le reste du monde. Nous avons mis en place ce qu'on appelle les fonds sociaux de la RDC. Ces fonds sociaux de la RDC devaient être affectés à quoi? Donc, moi, je crois que, d'une manière un peu ramassée, peut-être anticipative, puisque nous ne pouvons pas prendre le monopole de cette émission, mais nous allions souhaiter que cette agence-là ne soit pas créée inutilement, puisque je me pose même une question sur les ressources financières de cette agence.
Alors voilà, il y a autant de questions que vous posez, Sylvain. Rappelons quand même qu'il y a aussi une structure qui est rattachée à la présidence de la République, c'est pour la gestion de fonds d'urgence, pour faire face à des catastrophes naturelles, et aussi, c'est ça. Mais si, Sylvain, vous permettez, en écoutant le Conseil de sécurité cette année sur la question humanitaire en RDC, les besoins pour cette période qui va jusqu'à entre 2017 2019, déjà, les Nations Unies estimaient que les besoins pouvaient aller à 1,9 milliard de dollars américains. Ça, c'est pour faire face à la situation humanitaire globale, parce que là, nous avons des gens qui sont des déplacés des guerres, déplacés internes, des retournés, les victimes des catastrophes naturelles. C'est ce que les fonds prévoient. Mais pensez-vous aujourd'hui que, à l'allure où vont les choses, soit-on vraiment à mesure de pouvoir mobiliser des fonds nécessaires et faire face à cela? Parce que l'option a été levée au mois d'avril, on vient de formaliser cela maintenant, mais entre le mois d'avril et maintenant, il y a eu quand même des catastrophes qui sont survenues, et on a eu du mal même à pouvoir voir les fonds sociaux de la République s'élever, même voir le ministère des Affaires sociales et Affaires humanitaires s'élever. Mais pensez-vous aujourd'hui que dans les fonds, on peut arriver à mobiliser autant de fonds, de 8 millions à 1 milliard de dollars aujourd'hui pour mettre à la disposition de ces fonds pour faire face à ces différentes catastrophes.
Pierrot, ce que je veux dire, l'engage que moi, personnellement, comme enseignant de finances publiques, j'ai toujours dit, et j'ai comme l'impression que depuis 2006, les Congolais vivent des fonds étrangers. Ça veut dire des fonds qui ne sont pas des fonds d'ordre national. Puisque ici, il faut que nous soyons clairs. Lorsque vous voyez l'intervention de la communauté internationale à travers les différentes structures qui sont éclatées, l'OCHA et tout, vous vous rendez compte que dans la plupart des cas, et ça a été une étude que nous avons faite à l'université, c'est que ceux qui vivent convenablement, c'est ceux qui travaillent dans les systèmes des Nations Unies, ou soit dans les organisations qui ne sont pas nationales. Et donc, ceci voudrait dire que les budgets qui aujourd'hui ramènent le bien-être aux Congolais, ce sont des budgets qui sont conçus ailleurs, à travers les multinationales ou les entreprises internationales. Alors, la question que vous posez, effectivement, nous sommes dans la difficulté aujourd'hui de pouvoir croire que la RDC, en mettant cette agence-là, peut penser qu'elle va résoudre ces problèmes-là. Il ne faut pas oublier que les entrées extra-budgétaires sont des entrées qui viennent des autres États du monde, qui interviennent au profit d'une autre nation. Et la RDC n'a pas mandat de pouvoir présumer gérer les fonds d'intervention humanitaire comme l'avons vu récemment avec ce qui s'était passé en Djougou. Donc les gens doivent comprendre et ne pas mêler les choses en désordre. Lorsque la communauté internationale, à travers ces structures bien identifiées, veut intervenir en RDC, encore qu'il faut les États partis qui sont partis de ces systèmes-là acceptent et envoient un jet de téléphone pour intervenir au profit des Congolais. Mais si c'est la RDC avec son budget, veut faire quelque chose, il faut être orthodoxe dans la gestion des finances publiques. Ce qui nous manque au Congo, c'est que nous ne savons pas encadrer nos ressources budgétaires nationales et aussi nous ne savons pas affecter ces ressources aux besoins réels de notre population. Et laissez-moi vous décevoir, c'est que je ne crois pas que le cas de catastrophe naturelle au Congo sera bien géré par le pays, puisque l'esprit de la bonne gouvernance n'est pas encore ancré dans l'homme congolais. Et c'est ça le grand danger pour
le grand danger. Merci beaucoup Sylvain pour toutes ces précisions. Pour vous, le danger, la question de la gouvernance, la question de mobilisation de fonds nécessaires pour pouvoir permettre à cette agence de fonctionner et de prendre en charge les victimes des différentes catastrophes naturelles, les retourner, les expulser, les déplacer internes comme c'est prévu par le projet de création de cette agence. Merci John, vous êtes avec nous d'Isiro. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour John.
Bonjour, cher Hiro. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kassi.
On vous écoute, John.
Merci pour m'accorder la parole. Vraiment, ça, j'ai suivi le gouvernement directement. Il va créer le sacre des gestion de catastrophes. J'étais vraiment content parce que ça fait longtemps que le gouvernement n'a même pas passé à ça. Bon. Maintenant, le problème, c'est posé. Bon. Ça, c'est un domaine très populaire, monsieur Hiro, parce que ça demande des fonds. Vous imaginez que non, pour faire tout ça, ça demande des moyens. Il faut avoir quoi? Il faut avoir des centres pour quand même essayer de former ces gens-là. Il faut avoir des experts pour former les formateurs. Il faut avoir des espaces. Maintenant, dans le contexte actuel, là où la RDC, on a tout vendu, les espaces. Là, on va créer ça où? Tout ça, les fonds. Est-ce que nous avons le budget pour ça? Parce qu'il faut impliquer même tous les ministres des Affaires intérieures, les ministres, tout ça, il faut que tous les ministres qui avoir le budget dans son domaine pour quand même essayer de traiter. Parce qu'on n'est pas quand même pour tout ce parce qu'on a refoulé les congrès aujourd'hui, qu'on passe à ça. Il faut voir aussi, par exemple, le cas de l'ordre qui voilà, du gaz métal. Ça c'est du domaine des ministres des hydrocarbures. Dans le domaine là où il y a quand même des inondations. Tout ça c'est le ministre des Affaires sociales. Tout ça demande quand même des réflexions. On ne peut pas quand même rêver, c'est le matin, ça budget. Sa planification dit que non, on va créer ça. Ça demande des moyens, monsieur Pierrot. C'est ce qui nous manque. La planification en RDC, ça n'existe plus. Nous avons pas mis de budget. Je peux même dire que c'est réveillé à l'état. Ça, c'est mort, mais parce que ça ne va rien produire. On ne peut pas même faire un sacre comme ça. Ça demande des moyens là où il y a des sacres. Il faut avoir des nourritures pour ces gens-là. Il faut avoir des sacres, des sacres médicaux pour dans chaque sacre là où on va implanter tout ça. Est-ce qu'on va faire ça aujourd'hui? J'ai dit non. Il n'y a pas de place pour faire ça, parce qu'on a tout vendu. Les espaces de l'État sont vendus. sont vendus. Je ne sais pas si on va construire ça ou on va mettre ça ou si on va déloger les gens, je ne sais pas.
Mmh. Alors pour vous, merci beaucoup John, vous estimez que c'est trop complexe, c'est une question d'abord transversale, parce qu'il y a différentes catastrophes qui touchent par exemple les terres, qui touchent les accidents, les catastrophes qui touchent par exemple les différents ministères. Alors il fallait un travail de réflexion d'une manière transversale au niveau des différents ministères qui doivent entrer en ligne des comptes de la gestion de cette agence. Et pour vous, votre inquiétude aujourd'hui, c'est les fonds nécessaires pour pouvoir acheter des médicaments, des nourritures, à rendre disponible aujourd'hui des terrains, des endroits où on peut accueillir par exemple ceux qui retournent de l'Angola. Vous venez de le suivre sur Radio Okapi, 26 000 personnes qui ont débarqué à Tembo dans la province de Kwango. Il y a plus de 200 000 qui ont débarqué à Kamako, Kasai. Alors où les espaces pour les accueillir, la nourriture, les médicaments, les structures nécessaires, voilà. Et c'est une question très très complexe. Et pour vous avez beaucoup de doutes qui est dans l'allure où vont les choses avec notre budget. Il sera peut-être pas facile aujourd'hui de permettre à ces fonds de pouvoir fonctionner et d'avoir assez de moyens pour répondre à sa mission. Merci beaucoup, Dion. Timothée, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Chéron.
On vous écoute, Timothée.
Ok, merci beaucoup. Moi, je trouve que la création de cette agence humanitaire pour lutter contre ces catastrophes humanitaires, c'est quand même une bonne chose à féliciter de la part du gouvernement. Mais là où le pessimisme peut sur ce secteur et sur son fonctionnement, parce que nous savons qu'il y a des genres de structures qui ont été créées dans notre pays, mais qui ont été butées à des difficultés de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on ne les a toujours pas adaptées aux réalités sur le terrain. Parce que ce qui est plus étonnant, c'est de voir même que dans nos différents aéroports à travers le pays, il n'y a même pas de véhicules anti-incendie qui peuvent subvenir aux besoins si, par exemple, le casque d'avion se présentait dans un aéroport, ce qui est vraiment désastreux pour notre pays. Pourquoi nous avons toujours resté à ce que cette agence, bien qu'elle soit un peu tarif, mais nous voudrions à ce que le gouvernement ait un peu cette politique-là de prévenir les catastrophes au lieu de les subir, parce que quand on a toujours subi, parfois on manque de moyens financiers et logistiques pour vraiment venir en aide à ces victimes. Et puis ce qui se passe chez nous au Congo, ce sont des politiques politiques qui se créent souvent pour satisfaire aux besoins politiques créés et à ceux qui sont censés se couvrir à ces besoins. C'est pourquoi nous aimerions à ce qu'on puisse d'abord mettre des moyens logistiques surtout. Parce que par exemple, quand il s'agit d'un crash d'avion, et qu'il n'y a même pas de véhicules anti-incendie, par exemple, ce qui s'est produit de l'autre côté du Bas-Congo avec la collision de ces camions qui s'est produit. Vous voyez que l'intervention du gouvernement a été trop tardive et il y a eu des morts qu'on a déplorées sans fin. C'est pourquoi nous aimerions que ce genre de structures soit créé seulement pour que les victimes se retrouvent et qu'il y ait aussi des structures à travers les pays, surtout dans les pays très reculés, où les gens sont oubliés, par exemple, il y a des incendies et autres, mais les gens ne sont toujours pas secourus, et il y a toujours des morts qu'on a toujours déplorés, seulement pour annoncer des messages de compassion et autres, ce qui ne profite à rien.
Merci beaucoup, Timothée. Pour vous, c'est une question de prévention. Y a-t-il aujourd'hui les moyens nécessaires? Et vous êtes pessimiste sur le fonctionnement parce que vous avez estimé qu'il y a des structures qui ont été créées. Notre compatriote Sylvain est revenu tout à l'heure sur le Fonds forestier national, le FONER pour le route. Ce sont des fonds qui ont été créés comme ça. Mais il a dit qu'il se pose un problème de gouvernance, n'est-ce pas? Et de répondre aux missions pour lesquelles ils ont été créés. Mais pour vous aussi, vous vous inquiétez vu l'ampleur des fois des catastrophes qui arrivent, hein, et comme des fois on réagit en retard. Vous avez évoqué des véhicules anti-incendie aujourd'hui à travers le pays. Alors pour vous, c'est la même question. On peut créer la structure, mais est-ce qu'elle va fonctionner? Est-ce qu'elle aura de moyens nécessaires pour jouer son rôle? Voilà la question qui se pose. Charles, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour mon cher ami Pierrot, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui, mais parce qu'il y a eu quand même cette intention du gouvernement de pouvoir créer l'agence, on a plusieurs fois fait le débat où beaucoup de gens sont inquiétés qu'on réagit en retard quand on a des catastrophes naturelles, des fois des expulsés, des déplacés internes, on recourt plus à la communauté internationale. Bon, alors pour arriver à concrétiser cette idée, parce que vous avez suivi comment beaucoup de gens sont pessimistes, alors qu'est-ce qui doit être fait au niveau du gouvernement aujourd'hui pour qu'on arrive à faire fonctionner cette agence et qu'elle joue vraiment son rôle de prise en charge des victimes des différentes catastrophes, Charles?
Oui, merci beaucoup, Pierrot, pour la parole que vous m'accordez. Je crois que l'initiative en soi n'est pas mauvaise. L'initiative en soi, elle est très bonne. Parce que dans notre pays, nous avons vécu beaucoup de problèmes de catastrophes naturelles. Mais malheureusement, pourquoi je dis malheureusement? Parce que au moment où le gouvernement devait prendre toutes ces initiatives avant, il ne l'a pas fait. Pendant qu'il est maintenant fin mandat, il devait prendre les telles initiatives. Pourquoi nous les regrettons? Parce que nous savons que dans notre pays, il n'y a pas une bonne politique de la continuité de l'action de l'État. C'est pourquoi je dis que pendant qu'ils sont à la fin de leur mandat, ils viennent prendre cette initiative qui ne va aboutir à rien. Je dis ceci, Pierrot. La création des agences, c'est bien. Je prends un exemple. On avait créé l'agence des grands travaux dans notre pays. Nous sommes ici à Kinshasa. Vous connaissez très bien, même les auditeurs qui me suivent pour le moment, ils connaissent très bien l'état des routes de notre pays et plus pratiquement ici à la capitale. Où est partie l'agence des grands travaux? Ils ont créé des histoires seulement pour faire plaire aux gens, mais en réalité, s'il faut voir, rien n'est fait. Maintenant, ils vont maintenant créer encore une agence encore pour la gestion des catastrophes. Quand je prends par exemple les catastrophes de terre, nous avons les érosions. Au jour d'aujourd'hui, la ville de Kikwit a un problème très sérieux de catastrophe. Nous avons même suivi un ministre sur les médias qui a dit suivre les circuits des gouvernements, c'est très long, c'est pourquoi on a demandé aux institutions de Kikwit de pouvoir contribuer. Vous voyez un peu, si un ministre qui a dit déjà que la situation est très longue pour pouvoir trouver la solution, et vous pensez que lorsqu'on va créer une agence, il y aura vraiment une solution pour ça. Troisièmement, avec les maigres budgets que nous avons, mais nous voyons ceux qui prétendent diriger le pays, ils distribuent même l'argent plus de 2 000 $. Mais quand on voit les budgets, rien n'est fait. Et au jour d'aujourd'hui, on veut blaguer avec la population congolaise en disant qu'on va créer des agences pendant qu'ils ont l'argent qu'on peut mettre dans des banques, faire des histoires, ils vont distribuer l'argent par-ci, par-là. Moi, je pense que c'est malvenu. En tout cas, ils n'ont qu'à plier bagage, qu'on attend un autre gouvernement qui peut faire des bonnes choses, pas ce gouvernement.
Merci beaucoup, Charles. Vous estimez que c'est déjà trop tard pour ce gouvernement de pouvoir créer et faire fonctionner cette agence. Vous avez évoqué l'Agence congolaise des grands travaux aujourd'hui. Vous dites l'état des routes à Kinshasa. Où est passée la CGT et les missions qui lui ont été confiées? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut arriver dans le cadre de notre budget à faire fonctionner une agence humanitaire? Nous avons relevé ici, selon les Nations Unies, les besoins qui s'élèvent à plus de 800 millions de dollars. Quand on regarde les besoins humanitaires aujourd'hui à travers le pays, que ce soit les déplacés internes, ça c'est pour les gens qui sont comptés, mais pour ceux-là qui se retrouvent en difficulté du jour au lendemain, et pour vous c'est très difficile, il serait mieux de faire asseoir ces projets, attendre qu'il y ait un changement de gouvernement, qu'il y ait un autre gouvernement qui pourra peut-être penser à créer une telle structure, d'autant plus qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui pour affronter la question de la continuité des affaires de l'État. Merci beaucoup Charles de Kinshasa, où les auditeurs nous suivent sur 103.5 MHz. Eli, vous êtes en Bandaka. Bonjour.
Bonjour Radio Kapi, je remercie la confiance que vous m'avez faite aujourd'hui. Je remercie les interventions des différents intervenants. La question de la gestion durable des catastrophes, soit naturelles ou humanitaires. Vous devez savoir que lorsqu'on parle de la catastrophe, là, en tout cas, il y a des éléments où on peut cibler. Et c'est ce que nous appelons l'atteinte à l'intégrité environnementale. Lorsqu'il y a un nombre élevé de personnes qui sont mortes au moment où l'événement a été attaqué, a été, n'est-ce pas, parvenu dans un écosystème ou dans un environnement, là on pourra parler des catastrophes. Alors aujourd'hui, je pense que les plans qui a été déjà élaboré par le gouvernement, et dans ces plans, on a déjà détaillé certains nombres de catastrophes et a déjà frappé la RDC les 10 dernières années. Et nous avons vu les catastrophes telles que les éruptions volcaniques qui s'est passées à Goma. Nous avons aussi vu les catastrophes telles que Ebola aujourd'hui, c'est une catastrophe purement humanitaire qui a créé des choléras, des maladies, en quelque sorte, qui dérangent la vie des populations congolaises. Nous avons vu à l'époque aussi des catastrophes, des conflits armés à l'est de la République, les ADEF, les forces armées qui viennent, n'est-ce pas, de l'Ouganda, du Rwanda, qui s'installent aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, qui créent des désordres, des désastres dans notre partie de la République, ça crée des catastrophes humanitaires. J'ai aimé quand le gouvernement congolais a dessiné les tableaux, parce que dans les tableaux, il y a même des chiffres qui déterminent le nombre de catastrophes dans notre pays. Mais la question la plus importante est celle de savoir comment pouvons-nous procéder à la gestion éloquente de toutes ces catastrophes. En tout cas, l'élément important, c'est de savoir les mesures de précaution et les mesures de prévention. Parce que lorsque nous parlons ici dans les mesures de précaution, c'est au moment où on aura des catastrophes. Qu'est-ce qui va être fait par le gouvernement pour gérer
Alors, d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, Eli, nous avions déjà fait les débats autour de la question du plan de contingence, parce qu'il faut agir en amont pour savoir, au cas où il y a un problème qui survient, qu'est-ce qui doit être fait. Et pour vous, vous estimez qu'il faut plus élaborer le plan d'action en termes de plan de contingence qui prend en compte les moyens nécessaires qu'il faut aujourd'hui mobiliser pour faire face à des situations imprévues qui peuvent arriver. Vous avez suivi Sylvain en début d'émission, il a insisté sur la question des activités imprévisibles qui doivent être prévues dans notre budget, mais à hauteur des fonds nécessaires, parce que nous sommes un grand pays et des choses peuvent arriver. Et c'est à ce niveau que vous estimez qu'il faut prendre des précautions, il faut prévoir. Est-ce qu'au niveau de l'agence, on peut y arriver à le faire? 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine.
Identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Retrouvez toute l'équipe tous les samedis à 8h30, le mardi à 14h15.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Rappelons que c'était le lundi 16 avril que le gouvernement avait adopté la création de l'Agence de gestion des fonds humanitaires en République démocratique du Congo. Nous disions tout à l'heure que la structure a pour mission de prendre soin des victimes des catastrophes naturelles et autres situations d'urgence se produisant sur les territoires de la RDC. Il devra aussi assurer la réinsertion sociale de tous les Congolais qui ont connu la rupture de la structure normale de la vie. Par exemple, les personnes frappées par les catastrophes naturelles, les déplacés internes, les refoulés, les retournés et les anciens militaires démobilisés. Outre ses missions, cette agence aussi doit assurer la canalisation de tous les flux financiers qui touchent les secteurs humanitaires. Comment arriver à concrétiser tout cela? Vous êtes nombreux à commenter les sujets et continuer à débattre encore avec nous sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Paroles aux Auditeurs.
Bonjour Pierre Lamengi, bonjour à tous les amis auditeurs fidèles de la radio.
On vous écoute Ismaël.
Oui, je comprends bien que Sylvain, le premier intervenant, il a tracé bien le chemin, il a décelé beaucoup de choses. Mais je comprends aujourd'hui que la création de cette agence, je ne sais pas dire que c'est une création parce que ce service existe. Il s'agit qu'on a renouvelé ou on a encore renommé, on a donné un autre sens à cette agence. Mais j'ai pu constater que la plupart de ceux qui travaillent dans cette agence, ce sont des gens bien renommés et ils ont un moyen. Certaines choses sont là pour enrichir certaines personnes plutôt que le bénéficiaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? La RDC est un pays à force de conflits, dans de différentes manières. Nous avons des catastrophes naturelles qui surviennent d'une façon ou d'une autre. Nous avons la guerre et nous avons des épidémies. Qu'est-ce que nous constatons par exemple? Comme Sylvain a dit, que les fonds viennent du pays étranger. Et ces pays étrangers nous exigent à une bonne canalisation de ces fonds. Mais ce que nous remarquons est que nous n'avons pas vraiment les résultats admirables par tous. Pourquoi ? Parce que si nous voyons, nous avons par exemple la guerre qui a frappé, les conflits qui a frappé Kasaï Central, les deux Kasaï. Nous comprenons que les gens sont allés réfugier en Angola. Pourquoi ? Parce qu'il y avait conflit, on n'a pas résolu les conflits qui étaient là. Et quand le mouvement s'est étendu sur toutes les deux provinces, nous avons compris que les gens se sont réfugiés massivement dans d'autres pays. Mais si on devait lutter premièrement pour calmer les conflits au niveau national, on ne devait pas avoir maintenant les salaires en Angola qui sont réfugiés maintenant. Mais quel est le moyen qu'on avait canalisé? Quelle a été la prévision? On devait recevoir les gens qui étaient allés ailleurs. C'est là où se pose aussi la question. La stratégie ou la manière dont on utilise les fonds humanitaires, c'est ça ce qui inquiète tout le monde aujourd'hui. Nous comprenons maintenant que nous avons encore l'Ebola qui a frappé l'Ouest, maintenant c'est du côté de l'Est. Nous comprenons qu'il n'y a pas la maîtrise ou il n'y a pas les fonds appropriés, on peut terminer telle ou telle affaire. À mon avis, je pense que ce qu'on devait faire avec ces fonds, c'est que chercher des personnes compétentes qui peuvent aussi diriger bien ou mener bien l'utilisation de ces fonds. Donc, si on a des personnes qui savent que telle personne est le moins de communication nécessaire pour savoir quelle catastrophe, ils nous demandent telle chose. Nous avons aussi les incendies qui existent aujourd'hui, mais on ne sait pas comment on peut maîtriser ces incendies. Soit si les véhicules anti-incendie viennent, c'est après que l'affaire est déjà terminée, où les interventions viennent. Nous avons aussi le problème des raccordements, des courants électriques où les gens de différentes villes sont en bidonville. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi par nous avons l'aménagement territorial. Nous avons des bidonvilles et on ne songe à rien, on n'aménage à rien. Même s'il y a l'incendie, on ne parvient pas à atteindre un milieu touché.
Et alors pour vous, Ismaël, tout ça s'inscrit dans un processus, Ismaël, tout ça, ça s'inscrit dans un processus global de réflexion au niveau du gouvernement. Les fonds doivent être mobilisés. Et quand en revenant sur ce que disait notre ami Sylvain tout à l'heure sur notre budget. Et les beaucoup de fonds que nous recevons de l'extérieur, cela veut dire qu'on doit avoir la possibilité, l'autonomie, comme le gouvernement le prévoit, que la structure ait une autonomie administrative. Alors pour vous, il fallait que les fonds puissent être canalisés, pas pour enrichir certains, mais il fallait d'abord une réflexion globale. Et en amont, pour éviter les affrontements, les guerres qui ont fait aujourd'hui que beaucoup de gens sont retrouvés réfugiés en Angola et les autres reviennent, ça dit que c'est plus agir dans la prévention. Et s'il y a des cas qui arrivent et qu'on peut facilement gérer et faire face, mais quand il y a par exemple des poches d'insécurité, il y aura toujours des gens qui vont se retrouver déplacés. Et là, ça devient très difficile de pouvoir les gérer cela si on n'a pas de moyens. Et c'est que vous souhaitez que l'agence puisse aussi avoir des moyens pour arriver à bout de tous ces besoins humanitaires. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour. Ernest, on vous écoute. On vous écoute.
Merci. Vous avez une inquiétude. L'inquiétude, c'est laquelle? Je crains que l'agence puisse vider les substances vitales de notre ministère des Affaires sociales. Parce qu'on risque de se retrouver dans un ministère qui a perdu ses attributions au profit de l'agence. Ou soit que vivre à ce que nous pouvons appeler le conflit de compétences et des attributions entre l'agence humanitaire et le ministère de l'Environnement. Alors, si c'est ça, on se dit pourquoi le gouvernement est en train de multiplier des structures de gestion de conflits. Et surtout que cette gestion de conflits et cette agence est née sous pression du gouvernement. Or, le gouverner, c'est prévoir. Il fallait déjà se dire, nous sommes dans un pays tropical, nous sommes dans un pays où il y a l'humidité, de fortes pluies, les inondations peuvent venir, les terres peuvent connaître l'éboulement, et tout cela doit être déjà géré avec le ministère de l'urbanisme habitat, avec le ministère de l'environnement. Toutes ces structures peuvent déjà prévoir au gouvernement de dire comment renforcer le ministère des Affaires sociales. Nous avons le Fonds social de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes
ce fonds-là pour revenir au service des peuples congolais en détresse. Donc, cela est arrivé. Donc, je crains qu'il y ait conflit de compétences entre l'agence et le social, et il y aurait aussi des fonds qui seront plus consommés, pas pour le besoin du peuple, mais pour le besoin de l'administration, de ceux qui verront, de ceux qui vont gérer cette suite. Voilà ce que je pensais vous dire en ce moment.
Merci beaucoup Ernest. Vous êtes revenu sur vos inquiétudes, bien sûr, c'est sûr. Les ministères des Affaires sociales et Affaires humanitaires, c'est ces ministères en principe qui doit gérer cette question de prise en charge de victimes des catastrophes naturelles. Il y a le ministère qui a aussi en charge les affaires humanitaires. Et pour vous, quand on crée l'agence, alors qu'on pouvait mobiliser les fonds nécessaires et donner aux différentes structures spécialisées, donner à ces ministères pour lui permettre de pouvoir jouer son rôle, et là on risque de se retrouver dans un cas de figure de conflit de compétences entre le ministère des Affaires sociales, Affaires humanitaires et l'agence de gestion de fonds destinés à la question de l'humanitaire. Mais vous avez aussi posé la question, comme notre ami Sylvain, de savoir à quoi sert aujourd'hui le Fonds social de la République s'il faut encore multiplier d'autres structures ou créer une nouvelle structure dans la gestion de la question de l'humanitaire. Merci beaucoup Ernest Fidèle, vous êtes en Bandaka, merci de nous avoir rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Pierrot et la Neige, et bonjour à tous les amis auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
En fait, je salue l'initiative de la création de cette agence de gestion de catastrophes humanitaires pour la simple et bonne raison que quand on dit, il y a un adage qui dit gouverner, c'est prévoir. Donc, le gouvernement n'a pas plutôt péché dans ses attributions de pouvoir créer cette agence. Mais maintenant, étant donné que cette agence soit une nouvelle donne dans notre pays, il en faut un certain nombre de préalables pour plus de succès dans son effectivité. Alors, parmi ces préalables, je vais citer quelques-uns. Nous avons, il en faut une politique d'anticipation de gestion des risques, si vous voulez bien, de catastrophes naturelles. Une politique d'anticipation de ces gestions. Et deuxièmement, pour que cette structure soit vraiment opérationnelle et qu'elle soit effective, il en faut une logistique appropriée. Il y a du matériel, parce qu'il ne faut pas créer des agences parce qu'il faut en créer. Mais il faut qu'après la création de cette structure, qu'il y ait une logistique qui soit à la hauteur de pouvoir relever tous les défis liés aux catastrophes naturelles. Et troisièmement, je vais proposer qu'il y ait un personnel qualifié. Parce que il ne faut pas que cette structure soit créée justement pour donner des emplois aux cousins des uns et des autres qui vont s'y retrouver sans profit et ne sachant pas qu'est-ce qui leur sont donnés comme de tâches appropriées par rapport à ça. Donc là, moi, je tape beaucoup plus. Je martèle beaucoup plus par rapport au personnel qualifié. Nous devons former des gens qui doivent avoir un profil requis pour pouvoir relever le défi dans cette agence. Mais les tout ont pour dénominateur commun la bonne gouvernance. Vous savez, nous avons autant des agences, autant d'initiatives qui ont été prises dans le passé, mais quand nous allons dans l'application, dans l'effet de toutes ces initiatives, c'est autre chose que l'idée initiale qui a été prise au départ. Donc, moi, je veux aussi encore, comme mes prédécesseurs l'ont évoqué précédemment, je vais m'atteler beaucoup plus sur la bonne gouvernance, les fonds qui seront alloués à cette agence. Il faut que la gestion de ces fonds, la gestion du personnel, soit une gestion rationnelle, soit une gestion qui soit à même de pouvoir permettre à cette agence d'atteindre l'objectif assigné. Mais maintenant, il y a une question que je me pose. C'est la question ayant trait à la base juridique par rapport à cette agence. Car la gestion de catastrophes, Pierrot et la Mise, c'est une question qui relève de la sécurité sociale, de la protection sociale. Or, nous avons un ministère qui a le ministère des tutelles, c'est le ministère du Travail, Prévoyance sociale et de questions humanitaires. Maintenant, quelle corrélation ferons-nous entre cette agence et le ministère des Affaires sociales et des Affaires humanitaires? Je voudrais aussi, si tu veux bien, placer un mot sur ce que les amis ont dit, évoqué précédemment par rapport au budget. Oui, je veux bien, parce que tout doit être budgétisé, oui. Mais moi, je pense qu'au-delà de ces budgets, on peut, le gouvernement peut mettre en place une caisse nationale de protection sociale. Ça s'est fait dans d'autres pays. Une caisse nationale de protection sociale, laquelle caisse pourra servir de source d'approvisionnement, de source de subvention par rapport à cette agence. Et au-delà de ça, bien entendu, l'État congolais peut venir avec ses subventions, ses prêts et tout. Mais néanmoins, on devrait mettre en place une caisse nationale de protection sociale. Ça fonctionne dans bon nombre de pays dans le monde. Et c'est avec cette stratégie qu'on pourra résoudre ce problème, parce que tout le monde crie, le budget, il est maudit. Mais non, des initiatives doivent être prises, même quand on a un budget.
Même quand on a un budget maudit. Mais alors, docteur Fidel, c'est vraiment intéressant ce que vous avez présenté dans la globalité. C'est les préalables, il y a la question des compétences, la question des logistiques, la question même de la politique, même des gestions de risques, des catastrophes. Ça doit être défini clairement. Même la base juridique de cette structure qui doit être aussi définie clairement pour éviter les chevauchements avec, par exemple, le ministère des Affaires sociales, Affaires humanitaires, comme on a évoqué tout à l'heure. Mais l'idée n'est pas mauvaise, mais il faudrait clarifier tout cela sur le plan juridique, réunir les compétences nécessaires et surtout le moyen pour arriver à faire fonctionner cette structure, pour éviter que ce soit une structure de trop qui crée juste ou qui donne de l'emploi aux gens, mais à la fin on ne voit pas comment elle arrive à faire face aux problèmes qui peuvent survenir à travers le pays. Yannick est à Vienne, mais nous retournons d'abord à Kinshasa avec vous, Père Zénon. Bonjour.
Bonjour, je suis content de participer à cette émission encore une fois.
On vous écoute, oui.
Vous êtes en train de parler un peu des catastrophes là et l'agence qui se crée pour les gérer. Mm-hmm. Je commence d'abord par une petite question. Je me suis dit, est-ce qu'on attend les catastrophes ou bien on veut gérer ce qu'il y a? Pourquoi je pose la question? Souvent, ça me donne l'impression que dans les pays, on est un peu distrait et on est parfois surpris de ce qui arrive. Quand vous prenez la route qui va vers la Cité Verte, vous voyez la pente qui est à droite. Le grand trou, le ravin là qui existait là-bas, on a mis des maisons. Et vous savez que si les pluies continuent, tout ce monde peut aller dans le trou et puis il y aura des catastrophes, on va aller les soigner. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit tour ici vers Somazigida. Vous vous rappelez, là, il y avait Tipka.
Oui, exact.
Et quand on dépasse un peu, on entre dans ce marché-là. Nous étions à Land Rover et le jeune homme nous dit, non, Borolekate, il y a un grand trou là-bas. Heureusement que c'était la Land Rover, on a réussi quand même, on est entré. Et on vend d'ailleurs les choses à même les sols. Au vu et au su de tout le monde. Ça signifie que de cet endroit-là, la maladie peut partir de là et dans tout Kinshasa, contaminer tout Kinshasa. Catastrophe. Alors, si on va sur les rails, ou comment on les appelle encore, c'est camp ici qui s'est créé sur les rails vers poids lourd là.
Et à Pakadjuma, comme on appelle, oui.
Oui, c'est ça. Là aussi, il y a eu choléra à un moment d'ailleurs. Donc, ça signifie qu'on connaît les situations. On nous donne l'impression que on rêve un peu. Tout ce qui est là déjà, vous avez parlé tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un parler de l'électricité. Mais regardez les fils, ils sont dans des quartiers, on s'est dit, mais comment est-ce que ces gens vivent? Moi, j'ai toujours dit, quand je viens à Kin ici, j'ai dit, les Kinois vivent comme un miracle. Comment est-ce que ce peuple vit sans beaucoup d'épidémies, sans beaucoup de morts, avec tout ce que nous avons ici? Donc, moi, je me dis, quand les ministères se créent, parfois, ils sont en train de chercher qu'est-ce qu'on va faire. Mais aller dans les archives, révéler les tiroirs qui existent, les tiroirs de Mobutu, vous cherchez l'environnement, vous cherchez le ministère de l'Intérieur, vous cherchez tout ça. Mais tout a été déjà dit. Il n'y a rien de neuf. Comment construire une nation? Comment construire une ville? Comment la gérer? Comment y lotir? C'est un problème. Donc, ce n'est pas seulement attendre les catastrophes. Kinshasa est déjà dans cette catastrophe-là. Donc, au moment où nous parlons, vous et moi, là, pour cette émission, il faut que cette agence-là ait la logistique qu'il faut pour commencer déjà à aller soigner ce qui va mal dans cette ville. Il ne faut pas attendre demain.
Et d'ailleurs pour vous compléter, oui.
Et moi, je me dis, je ne souhaite pas. Le décollage ici, chez nous, c'est en ville.
Oui.
Même les atterrissages. Admettons, ça tombe encore une fois comme l'autre fois à Kingasani. Vous pensez qu'il y aura des camions pour aller lancer incendie là-bas pour aller faire quoi que ce soit. Donc, bref, je me dis, c'est bien, il faut encourager les initiatives. Mais une fois, je l'avais prêché, je disais, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui ne doit pas attendre quelque chose de Fonds monétaire international, ni le FMI là, ni des autres là qui nous donnent de l'argent. C'est plutôt à la RDC de prêter de l'argent au monde entier. Mm-hmm. Parce que le monde est en train de se battre pour tirer de l'argent de ce pays. Mais comment expliquer ce désordre, je ne sais pas comment intituler ça.
Merci ça beaucoup, Père Zenon, parce que oui, parce que vous avez évoqué la question. Rappelons qu'il y a eu dernièrement des inondations à travers la ville de Kinshasa. Les gens qui habitent le long des rivières, le gouvernement provincial a même pris la décision de pouvoir délocaliser les gens. Mais bon, on se demande encore où en sommes-nous aujourd'hui avec ces mesures. Et vous l'avez dit, Kinshasa lui-même, c'est déjà une catastrophe vu les conditions dans lesquelles les véhicules circulent, les pentes, les constructions anarchiques, le marché, les atterrissages, les décollages, la circulation, le rail, tout ça, ce sont des problèmes déjà qui se posent, qu'on devrait déjà penser à gérer plutôt qu'attendre qu'il y ait éboulement ou qu'il y ait un événement majeur pour pouvoir gérer tout cela. Merci beaucoup, Père Zenon. Yannick, vous nous appelez de Vienne. Merci de nous avoir rejoint, Yannick. Bonjour.
Bonjour. Merci de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette émission dans ce très bel sujet. Je voulais intervenir, donc je rejoins mon prédécesseur. Vous savez, c'est qu'il a dit la raison. Kinshasa, d'abord le Congo, Kinshasa particulièrement a un problème très sérieux sous le problème de construction. Quand on parle de catastrophe, comme les autres ont dit, on ne peut pas attendre que les problèmes arrivent, sinon on devait déjà prendre les précautions bien avant. Quand je prends des exemples comme les érosions, comme des caniveaux, c'est déjà un problème. Alors, si vous regardez au niveau de Mongafula, par exemple, il y a les érosions qui avancent, qui fait des dégâts terribles. Le gouvernement qui est en place, moi je me demande quelles sont les précautions qu'ils ont mises en place pour lutter contre ce genre de problèmes. Si vous voyez le problème de salubrité, là on n'en parle même plus au niveau des endroits, tout ça, c'est catastrophe, moi je pense. L'idée du gouvernement de créer cette agence, c'est bien, mais il faut mettre le justice et chercher le personnel compétent pour faire les travaux très bien. Vous savez, il y a des gens peut-être qui sont déjà dans une maladie. Même si vous êtes en train de vivre dans la salubrité, vous êtes, il y a des gens qui sont malades, mais ils ne se rendent même pas compte parce qu'ils sont déjà habitués. Donc, moi, je pense que ça serait mieux, hein, l'idée du gouvernement, même si le gouvernement arrive déjà à la faire, mais l'idée, on peut continuer avec le nouveau gouvernement qui arrive, afin que l'idée puisse continuer. Et moi, j'encourage déjà des idées. Les problèmes qui se trouvent au niveau de Kinshasa sur la salubrité, les érosions, il y a pas mal de caniveaux. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des problèmes, ce sont des catastrophes. Même. Donc au niveau du gouvernement, si on crée ce genre d'agence, on peut c'est mieux de trouver des gens capables, compétents pour faire le travail très bien afin que nous puissions lutter contre tous ces genres de problèmes. Merci
beaucoup, Yannick. Bonne journée à Vienne. Vous estimez qu'on vit déjà dans une forme d'insalubrité qui est visible. Il y a des caniveaux qui sont bouchés. Il y a des érosions. Il y a tout ça. Père Zenon disait tout à l'heure, il suffit qu'une épidémie se déclenche. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui les marchés Zigida, la manière dont les choses sont vendues après la pluie, c'est la catastrophe. Les gens vivent. Vous prenez Paka Djuma et d'autres quartiers qui sont insalubres. Il estime, et comme vous l'avez dit, qu'il suffit seulement qu'une maladie se déclenche, disons, dans ces milieux. C'est toute la ville qui sera attaquée. Alors, il faut penser en amont, il faut former les gens. C'est tout un grand travail qui doit être fait si jamais on veut vraiment faire fonctionner cette agence. On retourne ici à Kinshasa avec vous, Maître Elodie. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Je voulais tout d'abord vous remercier pour le thème qui est choisi pour ce jour. J'interviens par rapport à la création de l'agence de gestion des fonds humanitaires. En fait, je voulais ou je souhaiterais que l'on comprenne.
Voilà, des petits soucis. Oui, voilà. Oui, Maître Elodie, là. Oui, continuez, oui.
l'agence, en fait, lorsqu'on suit même les différentes interventions où on regarde ce qui se passe dans les secteurs humanitaires dans notre pays, on a l'impression que les gouvernements ne débloquent rien du tout comme fonds pour intervenir ou pour porter assistance aux personnes affectées par les différentes catastrophes. Pourtant, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'argent que les gouvernements débloquent pour les situations d'urgence, pour répondre aux catastrophes qui se produisent. Mais le seul problème, ça a été évoqué, c'est la question de bonne gouvernance, c'est la question de gestion de ces fonds-là. Et c'est pour ce faire que, moi je suppose, que cette agence a été créée pour essayer, ou dans le souci de canaliser au moins, le fonds affecté et par le gouvernement et par les autres acteurs pour les situations d'urgence. Parce que ici, on a évoqué les questions de prévention, les questions d'assistance, les questions, plusieurs questions. Mais moi, je pense que cette agence-là, nous devons la saluer. Pour autant qu'elle va constituer un moyen des canalisations où on sait voir combien a été affecté, combien a été débloqué, combien effectivement a servi pour répondre aux urgences ou aux situations de catastrophes qui se produisent. Et on suppose, on espère que ça ne va pas se passer comme quelqu'un a dit tout à l'heure, ça ne va pas être une occasion pour qu'un cousin, un neveu, un proche soit nommé, mais on va mettre des personnes qui vont réfléchir effectivement sur les questions de prévention, les questions d'assistance ou de secours, mais aussi les questions des solutions durables, où lorsque on assiste à des catastrophes, on ne va pas assister des personnes pendant une durée indéterminée. Non, il y a une durée d'assistance, mais aussi il y a une durée d'envisager les solutions durables où les organismes de développement ou les structures de l'État qui sont dans le développement vont maintenant prendre les relais pour sortir les gens dans la situation d'assistance à la situation maintenant normale où ils doivent vivre comme des personnes normales. Et c'est là le rôle du ministère des Affaires sociales aux côtés du ministère des Affaires humanitaires, parce que les actions humanitaires gèrent les situations d'urgence et les affaires sociales, les situations de développement. Et c'est là que ce n'est pas une agence qui va être en conflit avec les actions humanitaires. Aujourd'hui, le ministère des actions humanitaires, qui est le ministère attitré pour les questions des situations d'urgence, mais qui, malheureusement, s'est montré défaillant, je peux dire, a montré beaucoup de limites dans la gestion de ces situations-là. Pour la seule raison que nous venons d'évoquer ici, des raisons de mauvaise gouvernance.
Merci.
De mauvaise gouvernance parce que régulièrement l'État sort l'argent, et d'ailleurs en procédure d'urgence, mais le seul problème c'est que tout se passe à Kinshasa. Et lorsque la situation d'urgence est constatée en province, il faut attendre.
Et là, ça devient difficile. Merci beaucoup, maître Elodie. Merci maître Elodie de toutes ces précisions. Merci beaucoup, maître Elodie, pour toutes ces précisions. Vous estimez que l'agence pourra combler, mais le problème, beaucoup de gens sont revenus aussi sur cette question de la volonté de voir même l'agence travailler. Comme vous l'avez dit, qu'il y a eu beaucoup de limites avec le ministère des Affaires humanitaires pour vivre aussi que l'agence puisse aller plus loin. Merci. Vous avez été nombreux à commenter ces sujets. Le débat s'est poursuivi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Merci à Mimi Kindou qui a assuré la mise en onde. Jir Lungembo était à la réalisation et la coordination de ce magazine qui est Pierrot Elamiji vous a présenté. On retrouve Paroles aux Auditeurs sur www.radiocapi.net. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Merci et au revoir.